Théologie naturelle, cours du Père Philippe, Saint-Joseph, 9 novembre.
Nous allons revenir un instant sur la question de ce jugement de sagesse au niveau proprement philosophique, de philosophie première. Étant donné que la sagesse philosophique implique la découverte de l'être premier, implique une certaine contemplation de la manière d'exister de l'être premier, que les traditions religieuses appellent Dieu, implique aussi que le philosophe ait précisé ce que représente le problème de la création, et donc, en même temps, son adoration. Le jugement de sagesse va donc impliquer une dimension religieuse. Peut-être que je ne l'ai pas assez souligné, justement, dans l'être à Dieu, au chapitre 5, que nous verrons ensemble. Et je crois ceci important à souligner, parce que par là, nous assumons, vous voyez, au fond, tout ce que les grandes traditions philosophiques ont compris. Le climat religieux dans lequel se fait la philosophie. Quelqu'un comme Fernand Brunner est très sensible à ça, dans sa perspective néoplatonicienne. Et il a raison. Je crois que c'est très juste. C'est la philosophie, et la philosophie première est née dans un climat religieux. Et elle retourne à ce climat religieux au terme. De sorte que si je veux essayer de comprendre d'une manière critique, ce que représente ce jugement de sagesse. C'est quelque chose de très nouveau au point de vue philosophique, hein, et c'est quelque chose d'ultime. Et parce que c'est quelque chose d'ultime, c'est quand même très important, puisque par là, nous allons avoir un regard nouveau sur l'homme. Sur toutes les réalités, mais sur l'homme d'une façon très particulière. Alors il est important de comprendre que ce jugement de sagesse présuppose, hein, premièrement, la découverte de l'être premier. Donc, disons les cinq voies d'accès. Je ne dis pas tel que saint Thomas les donne, hein, faisons attention, les cinq voies d'accès vis-à-vis de Dieu. Parce que saint Thomas nous donne bien les cinq voies, mais il les donne dans un climat de théologie. Deuxièmement, la découverte de la relation de créateur ou créature, exactement, vers le créateur. Troisièmement, la dimension de l'adoration. Une adoration qui va vers la contemplation. Je crois que c'est à partir de là seulement que nous pouvons parler d'un jugement de sagesse. Vous voyez donc que l'aspect affectif est présent dans le jugement de sagesse. Cette vision que saint Augustin dit, que d'une façon générale, mais c'est saint Augustin qui le dit d'une façon la plus belle, quand il dit que nécessairement le point de vue de la sagesse implique quelque chose qui est lié à l'affectivité. Quand je dis l'affectivité spirituelle, c'est pas le sentiment, bien évident. C'est l'affectivité spirituelle, c'est-à-dire l'amour spirituel présent dans la contemplation. On ne peut pas contempler sans amour, c'est impossible. Et l'amour n'est pas seulement ce qui pousse à la recherche de la vérité, parce que dans toute la partie antérieure à la philosophie, nous avons donc la partie de l'analyse. La recherche des causes, c'est l'analyse. Tandis qu'ici, c'est la partie contemplative, c'est la théorie. pour la contemplation philosophique. Oui, on dirait analyse et synthèse. J'aime pas dire ça, mais pour que vous compreniez, analyse et synthèse. La contemplation n'est pas une synthèse. Hein. C'est autre chose que la synthèse. C'est un nouveau regard de l'intelligence sur une réalité présente qui m'échappe, que je ne peux pas analyser. Dieu, je ne peux pas l'analyser. Il est inanalysable. Et donc, dans la mesure où je reste uniquement dans l'analyse, l'être premier que nous appelons Dieu, selon les traditions religieuses, échappe complètement à l'analyse. Vous ne pouvez pas analyser Dieu. Vous ne pouvez que le contempler. Mais vous pouvez le contempler réellement. Donc, dans un regard intelligent, du nous, de l'intelligence, on peut contempler à travers l'amour et dans l'amour. Alors on va essayer de comprendre ça pour saisir la qualité particulière de ce jugement de sagesse. C'est un aspect critique que je vous donne maintenant. C'est une réflexion critique sur ce que représente ce moment particulier où la philosophie aboutit à cela. Chose qu'on ne voit jamais au point de vue philosophique. On ne voit jamais ça. On s'arrête à l'analyse. On comprend très bien, on s'arrête à l'analyse, c'est déjà tellement difficile de voir l'analyse de la philosophie prière, c'est pas comme du tout de découvrir les causes de l'être. De découvrir l'ousia, là, c'est pas commode. Alors on s'arrête à ce point de vue-là. C'est dommage, parce qu'on ne voit plus le sens profond de la philosophie. La philosophie est faite pour la contemplation. Elle est faite pour contempler le mystère de l'être premier, alors là je peux dire, le mystère de l'être premier que nous appelons Dieu, selon les traditions religieuses, puisque le mot Dieu, ce n'est pas le philosophe qui l'a inventé, il le reçoit des traditions religieuses. Et là, il va essayer de comprendre. Tous les noms de Dieu ne sont pas philosophiques. Le philosophe n'a pas un paragraphe sur le nom de Dieu. Il pourrait, dans une perspective de sagesse, et nous le verrons, dans une partie de sagesse, essayer de critiquer tous les noms de Dieu selon les traditions religieuses. Ça, ce serait très intéressant. Parce que les traditions religieuses ont les noms de Dieu, qui sont autre chose que la manière particulière d'exister de Dieu. Vous voyez, dans la somme théologique de saint Thomas, vous avez simplicité, perfection, ce n'est pas les noms de Dieu ça. Mais vous avez une question sur les noms de Dieu. Et Denis, lui, prend les noms de Dieu et les attributs de Dieu, les noms de Dieu et les manières d'exister de Dieu, comme étant la même chose. Ce n'est pas la même chose. Les noms de Dieu sont toujours liés à une expérience. Regardez dans la Bible. Où c'est dit d'une façon très nette. On va appeler ce lieu de telle façon, et par le fait même, on va appeler Dieu à cause de l'apparition. Vous voyez, c'est comme on dit Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Lourdes. C'est toujours la même Vierge Marie. Et cependant, Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Lourdes, si je suis fanatique de Fatima, si je suis fanatique de Lourdes et que je vais faire une grande procession à Notre-Dame, celui qui portera Notre-Dame de Fatima ne voudra jamais être dépassé par Notre-Dame de Lourdes. La grande procession de Séville, on voit ça, c'est normal. Alors voyez, c'est la confusion entre le nom et la tribu, et la manière d'exister. C'est toujours la Vierge Marie. Et le nom indique autre chose, c'est lié à une apparition, c'est lié à un geste, c'est lié à une activité de Dieu auprès de nous. Alors à partir de là, on dit un nom. Il faut être attentif à ça, vous voyez. Et la dévotion confond tout. On aimait la dévotion, mais il faut que la dévotion soit éclairée par la contemplation. Parce qu'une dévotion qui n'est pas éclairée par la contemplation va bloquer. Moi je suis pour Notre-Dame de Fatima. C'est évident, ça passe tout. Les autres choses, non, pas du tout. Alors, il n'y a plus que des pèlerinages à Fatima, il n'y a plus que des pèlerinages. Alors évidemment, vous voyez, tout de suite, il y a quelque chose qui fait que la dévotion oublie la contemplation. Et la contemplation doit éclairer cela, la contemplation, même la contemplation théologique, philosophique, doit éclairer les noms de Dieu donnés selon les traditions religieuses. Ce serait quelque chose de très très beau, de regarder toutes les traditions de Dieu et regarder tous les noms de Dieu. Et alors, on les regarderait dans une lumière de sagesse. Alors, j'essaie de comprendre la structure de ce jugement de sagesse. La structure de ce jugement de sagesse. Donc, c'est à partir, premièrement, de la découverte de l'être premier. La découverte de l'être premier se fait dans une démarche ascendante qui n'est pas une intuition, qui n'est pas une induction, qui n'est pas une démonstration absolue. Je ne peux pas découvrir Dieu dans une démonstration scientifique. Je découvre Dieu en le dévoilant. Alors, on appelait ça, dans un langage aristotélicien, démonstration a posteriori. Mais il faut faire grande attention aujourd'hui, parce que comme on n'est plus aristotélicien, le mot démonstration, pour nous, c'est tout de suite une démonstration scientifique. Et c'est ce qui fait que les gens sont tellement en état affectif d'opposition quand vous parlez de démonstration de l'existence de l'être premier. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut plus employer le mot, sauf ad intra, où on peut dire démonstration a posteriori. Et saint Thomas lui-même dit qu'une démonstration a posteriori, c'est une démonstration très imparfaite, et donc qui ne satisfait jamais totalement l'intelligence. Une démonstration doit donner l'évidence, mais une démonstration a posteriori ne donne pas l'évidence absolue. Et donc l'intelligence n'est jamais totalement en repos, elle revient tout le temps sur cette démonstration, parce qu'elle est imparfaite. C'est ça que ça veut dire. Alors il vaut mieux dire aujourd'hui découverte ou dévoilement, peu importe comment vous l'appelez. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une démarche rigoureuse de l'intelligence. C'est vraiment une démarche de l'intelligence qui essaie de mettre en pleine lumière la nécessité de poser un être premier. L'évidence porte sur la nécessité de poser un être premier. Mais ça ne pose pas du tout sur l'évidence de l'être premier. L'être premier reste toujours quelque chose qui m'échappe totalement. Je n'ai aucune lumière directe de l'être premier, philosophiquement parlant. C'est toujours par un métaxu, un intermédiaire. Un intermédiaire qui est de plus en plus parlant pour mon intelligence et qui me montre la nécessité de ce saut, de ce bond, d'affirmer qu'il est nécessaire qu'il existe un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. Alors vous voyez que c'est très important de faire cette petite distinction parce que ça montre bien que lorsque le philosophe découvre l'être premier, il découvre le Dieu de toutes les traditions religieuses. Il n'y a pas un Dieu des philosophes et un Dieu des croyants, parce que je ne vois pas très bien comment ça pourrait se loger en Dieu. C'est Dieu tout court, c'est-à-dire l'être premier qui est l'absolu. L'absolu dans l'ordre de l'être, l'absolu dans l'ordre de l'amour, l'absolu dans l'ordre de la vie. C'est le premier que découvre. Je découvre le premier, mais l'être premier. Je ne découvre pas un principe. Je découvre une res, au sens augustinien. Je découvre la res, la réalité existante. Et c'est cette réalité existante que je découvre. Mais cette réalité, elle m'échappe complètement. Donc là, le grand problème très important qui me fait entrer dans une nouvelle partie de la philosophie première qui sera sagesse. Je découvre, c'est le seul. J'entre de cette manière. Et vous comprenez que pour entrer dans cette dernière partie de la philosophie première, la sagesse, je n'entre pas à partir d'une expérience. Puisque philosophiquement parlant, je n'ai pas d'expérience de Dieu. Je peux avoir une expérience affective d'un certain tremendum. Je suis dans un état de crainte, le sacré. Vous savez bien, vous voyez ça, Moïse, hein, Moïse qui enlève ses souliers, parce que ce lieu est saint. Ce lieu est saint. Donc il y a un tremendum, hein, il y a une crainte, il a peur. Ce lieu est saint. On s'approche devant. Alors, ça c'est vrai, il y a une expérience du sacré. Et on peut avoir une expérience authentique et affective du sacré. Mais l'expérience du sacré n'est pas l'expérience de Dieu. C'est encore une expérience de l'homme dans son approche vers Dieu, dans son attraction vers Dieu. Dieu m'attire sans qu'il y ait une expérience d'intelligence, il y en a peine. Et le magnétisme divin, comme le dit là, il y a un magnétisme divin qui est extraordinaire, qui est invraisemblable, mais il a une attraction qui fait que je ne sais pas. Et je suis attiré. Et je ne sais pas pourquoi je suis attiré, parce que je ne connais pas. Et je suis pris. On est pris dans le filet divin. On est attiré. Il y a quelque chose qui nous attire. On essaiera de comprendre après coup qu'est-ce que c'est tout cela. C'est normal, puisque Dieu est la source de mon être. Donc c'est normal qu'il y ait une attraction. S'il n'y avait pas d'attraction, ça prouverait que je suis insensibilisé. Et donc je ne saisis plus quelque chose qui est fondamental dans mon être. Je suis polarisé. C'est l'aimant qui attire. C'est une très belle image. Hein? L'aimant qui attire. La petite brindille que je suis. Je suis attiré. Et je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, je suis attiré. Donc, on va découvrir cet être premier de cette manière-là. Une fois que je l'ai découvert, j'essaie de contempler. C'est-à-dire, j'essaie de comprendre toutes les manières d'exister, les manières d'être. C'est là où je découvre que l'être premier est absolument saint. Donc, au-delà de toute analyse. Et je ne peux que le contempler. Et j'essaie de contempler cet être absolument saint, parfait, bon, infini. Et je me pose ensuite la question, quelle est la relation de cet être premier avec moi-même ? Je découvre, au-delà des mythes religieux, cette relation de création. Alors, c'est ici, vous voyez, parce que la découverte de l'être premier n'intervient pas dans le jugement de sagesse. Il intervient en ce sens que c'est toujours présupposé, mais n'intervient pas directement. Tandis qu'au contraire, la contemplation à l'égard de l'être premier, ah, c'est quelque chose de présent. Cette contemplation, c'est essayer, dans la mesure du possible, de comprendre la manière d'exister de l'être premier. Puis, je vois que Dieu, ce Dieu, est ma source, la source souterraine cachée, et je l'adore. J'ai cette attitude religieuse de l'adoration. Et cette attitude religieuse de l'adoration, c'est de comprendre cette attraction qui avant était cachée, qui devient, elle, intelligible. L'adoration est un acte intelligible, un acte humain, volontaire. J'adore volontairement et je sais ce que je fais en adorant. Je me laisse prendre par cette attraction souterraine, fondamentale de l'être premier. Je me laisse prendre et je suis conscient de cela. Et donc il y a toute une attitude affective qui est l'attitude religieuse. L'attitude religieuse est... Donc, le jugement de sagesse présuppose cette affectivité religieuse de l'adoration et de la contemplation. Et c'est dans ces deux aspects que je vais essayer de poser ce jugement de sagesse. Donc, vous voyez que le jugement de sagesse, c'est partir du Créateur pour regarder toute chose dans la lumière du Créateur. Je crois ceci important pour assumer ce qu'il y a de vrai dans l'ontologisme. Alors, il faut savoir ce que c'est que l'ontologisme. L'ontologisme est une position philosophique extrêmement importante. C'est une position ontologique qui a commencé à partir de Descartes, avec Malebranche, qui est un prêtre philosophe. Et donc, tous les prêtres philosophes ont la tentation de l'ontologisme, et ça se voit jusqu'à Blondel. Donc, de Malebranche à Blondel. Il faudrait étudier ce que représente cette position de l'ontologisme, qui est une grande position philosophique, une position d'une très grande noblesse. Mais hélas, ce n'est pas vrai. Il y a quelque chose qui est une espèce de précipitation de l'intelligence vers Dieu. Si l'ontologisme était vrai, ce serait magnifique. Ce serait extraordinaire. Quelqu'un comme Étienne Borne, philosophe chrétien, au fond, considère que l'ontologisme, c'est la seule grande position philosophique. Vous voyez, toujours la petite tentation, qui est très intéressante à voir. Il faut être séduit par l'ontologisme. Si on n'a pas été séduit par l'ontologisme, il nous manque quelque chose, au point de vue philosophique. Il faut avoir été séduit par l'ontologisme. L'ontologisme ne voit plus assez la distinction entre foi et intelligence. C'est pour ça qu'on a considéré que saint Anselme était le grand-père de l'ontologisme et Platon l'arrière-grand-père. Autrement dit, il y a dans l'ontologisme une position terriblement humaine où je crois que c'est une tentation permanente de notre intelligence humaine qui voudrait avoir un contact direct avec Dieu. Un contact affectif, mais en même temps une expérience. On voudrait cette expérience. Alors vous voyez, si l'ontologisme est vrai, il n'y a plus de démonstration de l'existence de Dieu. Je n'ai plus besoin de le dévoiler, j'ai simplement la prise de conscience de cette expérience. Et alors on dirait que celui qui affirme que Dieu n'existe pas, c'est parce qu'il n'a pas pris conscience de cette expérience. Alors c'est très important de comprendre l'ontologisme et de comprendre cette position de l'ontologisme. Et je la mets tout de suite ici parce que je crois que c'est très important que grâce au jugement de sagesse, on va pouvoir assumer tout ce qu'il y a de juste dans l'ontologisme. Il faut toujours, dans toute erreur, il faut saisir la petite paillette de vérité. Tout le temps. Autrement, on est négatif, on est anti. Alors, il faut saisir tout le temps la petite paillette. Ce sont des philosophes. Malebranche, il a une très grande noblesse d'intelligence. Il faut de temps en temps lire quelques pages de Malebranche. C'est beau, c'est noble, c'est grand. Sa recherche de la vérité, c'est très très grand. Alors, on essaie de comprendre un tout petit peu. On ne comprend l'homme que dans la lumière de Dieu. Et c'est très simple à comprendre, c'est que le fini ne peut se comprendre que par l'infini. La limite ne peut se comprendre que par ce qui est la mesure de la limite. Alors, tout dépend si vous connaissez l'infini. Et comme avant Malebranche, il y a Descartes, et que Descartes dit qu'il y a un concept inné d'infini en moi, je suis donc polarisé par cet infini. Et cet infini, mais c'est Dieu. Et je connais le fini par l'infini. Donc, je ne connais l'homme que par Dieu. Vous voyez que l'attitude religieuse devient l'attitude première. La dépendance à l'égard de Dieu, c'est quelque chose de primordial. C'est ça qui est le point de départ de la philosophie. Je prends sous un autre aspect. Dès que je vois le problème de la création, je vois que Dieu est source de mon être, que j'ai un être participé. Donc Dieu est source de mon être, Dieu est source de mon intelligence, Dieu est source de mon amour, Dieu est source de ma vie. Donc Dieu est plus présent à moi-même que je ne suis présent à moi-même. Et c'est vrai, je dois le dire. Ça, c'est tout le problème de la création. Dieu est plus présent à moi-même que je ne suis présent à moi-même. Si donc Dieu est plus présent à moi-même que je ne suis présent à moi-même, et si je ramène le problème de la connaissance à la présence, donc Dieu est plus connaissable à moi-même que je ne suis connaissable à moi-même. Et c'est vrai, Dieu est beaucoup plus lumineux que moi. Heureusement, parce qu'il ne serait pas Dieu. Donc si Dieu est totalement intelligible dans tout ce qu'il est, il est celui que je connais en premier lieu. Et c'est dans la lumière de Dieu qui m'est immédiatement donnée que je me connais. Vous voyez le petit raisonnement qui est très fort du reste et qui est très beau. Mais la petite confusion, c'est que Dieu est présent dans mon être. Il n'est pas le premier intelligible pour moi. La confusion entre Dieu et l'être. La ratio entis, la raison d'être. Dieu n'est pas la raison d'être. Dieu est l'être souverain. Et même si je connais ce qui est, je ne connais pas Dieu. Ce n'est pas dans mon jugement d'existence que j'affirme Dieu. Ça a été dit, ça, dans certaines positions ontologiques. Le jugement d'existence, c'est la présence de Dieu. Le roi dit ça. Il dit que dans le jugement d'existence, ceci est, il y a la saisie de Dieu. C'est extraordinaire. Si c'était vrai, ce serait merveilleux. Mon jugement d'existence, eh bien, me donnerait tout de suite la vision de Dieu. C'est pas vrai. Parce que l'être et la raison d'être n'est pas Dieu. C'est ce par quoi je monterai vers Dieu, c'est sûr. C'est le cordon ombilique de la création, n'est-ce pas ? Je peux par là remonter jusqu'à Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Alors voyez la petite confusion entre la cause efficiente et la cause formelle. Si Dieu est le premier dans l'ordre de la causalité efficiente, Dieu n'est pas le premier qui détermine mon intelligence. Dieu ne spécifie pas directement mon intelligence. Donc Dieu n'est pas le premier à déterminer mon intelligence. Mon intelligence est déterminée par les réalités qui sont autour de moi et dont je saisis leur quidité. On verra ce que c'est que la quidité. Ici, je l'emploie, c'est un mot barbare, mais comme les philosophes modernes l'emploient, je peux l'employer. C'est très curieux, c'est un mot qui est très scolastique et qui a duré à travers tout. C'est comme le mot essence, c'est très curieux, ça. Ce serait très intéressant, du reste, de voir dans la philosophie contemporaine tous les mots qui proviennent de la scolastique. Et alors, on les a tordus dans tous les sens, hein, pour arriver à un sens qui... Mais quidité, c'est rester à peu près. C'est l'intelligibilité profonde de la réalité. C'est ça, la quidité. C'est ce qui fait que homme est homme, l'intelligibilité d'homme, c'est homme. Si je veux savoir ce que c'est que Pierre, je dis il est homme. Voilà la quidité de Pierre. C'est parce qu'il est homme. Son essence, c'est ce qu'il y a d'essentiel en lui. C'est ça le mot quidité, l'intelligibilité fondamentale et première. Donc, on a confondu la présence d'immensité et la présence objective. La présence d'immensité où Dieu est présent parce qu'il est cause efficiente de mon être. Il est mon créateur. Alors il est plus présent à moi que je ne suis présent à moi-même dans l'ordre de l'être. Et cela ne veut pas dire qu'il est le premier intelligible en moi. Et cela ne veut pas dire qu'il est le premier aimable. C'est vrai que, en définitive, c'est Dieu qui est la bonté souveraine. Et donc, tout ce que j'aime, je l'aime à cause de Dieu. Tout amour vient de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que tout amour est l'amour de Dieu. Quand j'aime les pommes de terre, c'est pas l'amour de Dieu. C'est un autre amour. Quand j'aime le chocolat, c'est pas l'amour de Dieu. C'est un autre amour. Et tout amour vient de Dieu. Jusque-là. C'est extraordinaire. Et, dans l'ordre, c'est vrai, parce que toute bonté vient de Dieu. Si une réalité est bonne, c'est parce qu'elle participe de la bonté de Dieu. Et donc, si une réalité est bonne et qu'elle suscite en moi un amour, on peut dire que cet amour me conduit à l'amour de Dieu. C'est vrai. Tout amour me conduit à l'amour de Dieu. Donc, si quelqu'un aime beaucoup le chocolat, vous pouvez, à partir de là, essayer de lui montrer qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui doit le conduire jusqu'à Dieu. Là, c'est une excellente manéduction. Parce que on est dans un état affectif, et donc étant dans un état affectif, on est capable de remonter. Vous voyez la confusion, le télescopage que fait l'ontologisme. Alors, ce télescopage va durer. Vous savez ce que dit Hegel ? Hegel dit que toute sa philosophie, c'est un argument ontologique pour montrer l'existence de l'être premier et de Dieu. Parce que l'ontologisme va donner naissance à l'argument dit ontologique que vous trouvez dans Kant. L'argument ontologique consiste à passer de l'idée à la réalité. L'idée d'infini me fait poser immédiatement un être infini. Ça, c'est dit parfaitement dans Descartes. L'idée d'infini me permet de poser immédiatement. Alors, il faut toujours voir un lien entre la position philosophique de l'ontologisme et l'argument ontologique. Il faut bien distinguer les deux. Il ne faut pas les confondre. Mais il faut bien comprendre qu'il y a un lien entre les deux. Il y a un lien entre les deux parce que l'argument dit ontologique me fait passer de l'idée immédiatement à l'existence. De l'idée d'infini, je pose l'existence d'un être infini. Tandis que la position de l'ontologisme consiste à dire que le fini ne peut être connu que par l'infini. Et donc, de dire que la connaissance de Dieu éclaire ma connaissance de l'homme. Immédiatement. Parce que immédiatement, c'est vrai. Mais immédiatement, alors ça, c'est plus vrai. C'est une confusion entre la causalité efficiente et la causalité formelle de la spécification de mon intelligence. Alors, c'est très important de comprendre cette position de l'ontologisme. Parce que je crois bien que l'ontologisme est le lit de l'athéisme. Le lit philosophique, hein. C'est-à-dire que c'est à partir de l'ontologisme qu'il y a une réaction violente pour libérer l'homme. Comme certaines attitudes de piété peuvent être le lit de la théologie de la libération. Il y a des analogies, hein, il y a des analogies. Et il faut les comprendre, parce qu'autrement on est très injuste. Alors il faut bien comprendre ces positions-là, que l'ontologisme qui dit que l'homme ne peut être compris que dans la lumière de l'être premier va amener une réaction violente, à dire pas du tout, l'homme est intelligible par lui-même. Et je connais l'homme tel qu'il se présente à moi. Et donc je n'ai pas besoin de poser Dieu pour connaître l'homme, ce qui est parfaitement vrai. Je connais l'homme avant de connaître Dieu. C'est sûr, je connais l'homme avant de connaître Dieu. Mais si j'ai une vision de foi de l'homme, je dis que l'homme est l'image de Dieu. Et l'image, je ne la connais que par le modèle. Alors, dans la foi, je peux dire que je connais l'homme dans la lumière de Dieu. C'est vrai. Mais dans la philosophie, non. Vous voyez, là encore, l'ontologiste confond l'immédiateté de l'expérience de Dieu de la foi et le point de vue de l'intelligence philosophique. On confond la connaissance de foi et la connaissance philosophique. Alors, la réaction en face de l'ontologisme, c'est l'idéologie athée. Il y a quelque chose de commun entre ces deux positions de l'ontologie et de l'idéologie athée. C'est que toutes les deux ont un primat d'idée. Mais ces deux positions diamétralement opposées, vous comprenez bien. L'ontologie met Dieu dans l'homme. Et à partir de Dieu, je connais l'homme. L'athéisme libère l'homme de Dieu. Veut libérer l'homme de Dieu. Prétend libérer l'homme de Dieu en disant que l'homme est connu directement. C'est l'homme sans Dieu. Tandis qu'au contraire, l'ontologisme, c'est l'homme en Dieu. L'homme ne peut être connu qu'en Dieu. Parce que Dieu, c'est l'infini. Et l'homme, c'est le fini. Et le fini ne peut être connu que dans l'infini. Tandis que lorsqu'il s'agit de l'idéalisme, de l'idéologie athée, on dira l'homme, ceci ça se voit très nettement chez Feuerbach, l'homme a quelque chose d'infini. Et c'est pour ça qu'il n'a pas besoin de Dieu. C'est la position de Feuerbach. Alors chez Feuerbach, on voit très très bien l'anti-ontologisme. C'est pour ça que je crois qu'on peut dire que les idéologies athées sont des anti-ontologismes. Alors vous avez ontologisme, anti-ontologisme, faites la synthèse. Et la synthèse consiste à sortir de l'ontologisme. C'est-à-dire d'aller au-delà de l'idée pour redécouvrir le jugement de l'existence. C'est-à-dire retrouver ce contact avec le réel qui est antérieur à ma connaissance de Dieu. Alors, il s'agit de saisir ce qu'il y a de juste dans l'ontologie. Il y a quelque chose de juste. C'est très vrai. Que je ne peux connaître parfaitement l'homme qu'en comprenant qu'il est une créature. Je ne peux connaître parfaitement l'homme qu'en découvrant sa dimension religieuse. C'est-à-dire découvrir sa dépendance à l'égard de Dieu. Et voyez bien, je dis connaître parfaitement l'homme, pas connaître l'homme. Et c'est justement ce jugement de sagesse qui va essayer... va récupérer cette dimension que je ne peux connaître parfaitement l'homme que dans sa dépendance à l'égard de Dieu. C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble, vous voyez ? C'est une chose très importante, ça. Alors, je vais me servir, hein, puisque c'est une chose qui existe, mais je voudrais beaucoup le compléter. Je voudrais avec vous me servir de ce que j'ai écrit à propos de l'être à Dieu dans le chapitre 5, Jugement de sagesse. C'est une partie que je désire reprendre avec vous. Alors la base c'est ça, puis on essaiera de voir ensemble tout ce qui manque, tout ce que nous devons ajouter en plus. Parce que c'est une chose très importante, ce regard de jugement de sagesse. Au point de vue philosophique, de comprendre que la philosophie s'achève dans un jugement de sagesse. Et dans ce jugement de sagesse, on pourra assumer des quantités de choses qui sont présentes dans l'ontologisme, qui sont présentes dans Descartes, qui sont présentes dans Malebranche, qui sont présentes dans Blondel, reprendre tout cela, mais le situer dans un jugement de sagesse. Et les situer vraiment dans un jugement de sagesse, c'est-à-dire comprendre ce jugement de sagesse qui est un jugement existentiel ou existentiel. Parce que c'est un jugement d'existence. Ce n'est plus un jugement au niveau du ti esti. C'est un jugement du quomodo, du comment. Comment existe de fait l'homme ? Vous voyez bien, c'est très intéressant de voir ça. Parce que l'ontologisme a bien saisi qu'on ne pouvait connaître parfaitement l'homme qu'en regardant Dieu. Oui. Je ne peux connaître parfaitement comment l'homme existe au niveau religieux qu'en regardant Dieu. Mais ce n'est pas quelque chose de premier. Je connais avant ce qu'est l'homme, le ti esti de l'homme. Et je connais en dernier lieu comment l'homme existe dans cet état de dépendance à l'égard de l'être premier. Donc vous voyez bien la situation particulière de ce jugement de sagesse. Je crois que c'est capital. Et ne pas confondre tout ce que représente la recherche philosophique, la recherche éthique, la partie de l'analyse. Toute analyse est une recherche. Et tout esprit de recherche est un esprit analytique. Ça, c'est bien évident. On ne découvre que par la recherche, que par l'analyse. L'analyse divise pour essayer de comprendre. Donc, c'est l'esprit de tout chercheur est un esprit d'analyse. Quand vous contemplez, vous n'êtes plus dans la recherche. Je ne veux pas dire qu'on est au repos. Non, c'est pas ça du tout. Puisqu'on a dit le repos de la contemplation. Alors, vous comprenez que c'est pour bien montrer la différence entre la recherche et puis le point de vue du repos. Mais le point de vue contemplatif, philosophique, implique tout le temps la recherche. Pourquoi ? La découverte de l'être premier. Qui ne s'introduit pas dedans, mais qui est toujours présupposé. Et comme cette découverte est imparfaite, elle est imparfaite, je le sais, et je suis très conscient qu'elle est imparfaite, pour qu'elle soit plus parfaite, je reviens toujours à l'analyse. L'analyse aiguise mon intelligence. L'analyse permet à mon intelligence d'être de plus en plus pénétrante. Une intelligence pénétrante, c'est une intelligence d'analyse. Alors, plus mon analyse est forte, plus la découverte est pénétrante. Et plus la découverte est pénétrante, plus la contemplation peut être vraie. Mais la contemplation va présupposer cette pénétration de l'analyse pour essayer d'aller toujours plus loin. Donc il faut bien distinguer cette première partie d'analyse et de recherche et ce second aspect du jugement de sagesse qui présuppose la contemplation et qui présuppose l'attitude religieuse de l'adoration. Les deux. L'aspect affectif et l'aspect proprement de l'intelligence. C'est pour ça que je dis, à partir de notre contemplation de l'être premier et de la considération de la causalité créatrice, ajoutons de l'adoration, nous pouvons dans une nouvelle lumière juger des conditions d'existence de tous les êtres créés, et spécialement de l'homme, puisque c'est avant tout de l'homme que ça m'intéresse. Savoir exactement, dans la lumière de sagesse, ce que je peux dire de l'homme. Alors, le premier moment de ce jugement de sagesse, si l'être premier est absolument simple dans son être, vous avez ça donc tout ça dans le chapitre 5, hein, si l'être premier est absolument simple dans son être, toute créature implique en elle-même une distinction radicale entre son acte d'être et sa nature, son essence. Tous ceux qui connaissent un peu les fameuses thèses dites thomistes, savent très bien que parmi ces thèses dichotomistes, il y a cette première thèse, dans tout être, il y a la distinction réelle des sens et d'existence. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle une thèse thomiste. Vous voyez comment je la ramène à un jugement de sagesse. Ce n'est pas une thèse, c'est une conclusion. Vous allez me dire, une thèse, c'est une conclusion. Oui, si vous voulez. Mais faisons attention. Quand c'est donné dans les thèses thomistes, et ça, c'est pas ancien, c'est le fruit de la scolastique, ça. Et ces thèses thomistes, l'abbé Grenet, vous pourrez regarder, l'abbé Grenet a voulu résumer et reprendre les thèses thomistes. Alors je pourrais avec vous prendre ces thèses thomistes de l'abbé Grenet. C'est intéressant à regarder. Ça vaut la peine, parce que je crois que c'est la dernière moulure ou la dernière forme des grandes thèses dites thomistes. Et l'abbé Grenet, alors, essaie de les rajeunir. En leur donnant un petit habit particulier, une tenue spéciale, mais il les laisse au niveau thèse thomiste. Donc, ça s'appuie sur la tradition de l'école. Or, vous savez ce que dit saint Thomas ? Au point de vue philosophique, quand on s'appuie sur l'autorité, c'est la dernière des raisons. Quand on ne sait plus quoi dire, on s'appuie sur l'autorité. Quand on ne sait plus quoi dire, l'autorité morte ou l'autorité vivante, alors on s'appuie sur l'autorité. Ce n'est pas un argument philosophique. Il faut faire grande attention à ça. Mais on a parfaitement le droit de s'appuyer sur les autorités. Saint Thomas dit ça. Mais oui, avant de le comprendre, dites saint Thomas le dit. C'est très très bien. Aristote le dit très bien. Mais faites attention. Parce que les autorités sont autorités dans un certain secteur. Et en dehors de ce secteur ne sont pas autorités. Vous comprenez ? L'autorité de saint Thomas, pour nous, c'est quelque chose de valable. Pour la Sorbonne, ce n'est pas très valable. Et donc, quand vous sortez un argument philosophique en disant « Saint Thomas dit ça », c'est très bien. Mais pour un certain cercle philosophique, ça n'a aucune valeur. Donc, il vaut mieux pas le lire. Parce que, immédiatement, vous montrez votre impuissance philosophique. Je dis bien votre impuissance philosophique. Vous êtes encore à l'âge embryonnaire, vous vous appuyez sur une autorité.